Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
Qu'est-ce que réussir sa vie ? Alors, qu'est-ce que réussir sa vie ? C'est sans doute une des grandes questions de la philosophie. Dès l'Antiquité, les philosophes, pour répondre à cette question, nous ont conseillé de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Alors, ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre naissance, c'est nos parents, c'est l'époque et le lieu où on est né, c'est le fait d'être un garçon ou une fille, etc. C'est l'ordre du monde, disons. Mais ce qui dépend de nous, eh bien, ce sont nos choix, et notamment peut-être le dernier. Le dernier, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va quitter le monde, comment est-ce qu'on va quitter la vie. Je ferai l'hypothèse dans cette chronique que réussir sa vie, c'est aussi réussir sa mort. Et pour creuser cette hypothèse, j'évoquerai un film de 1976, un western bien sûr, de Don Siegel, qui s'appelle The Shootist en anglais, ou Le Dernier des Géants dans le titre français. Et c'est encore une fois, une réflexion sur la fin des mythes, sur la dimension crépusculaire du western. D'ailleurs, c'est un film hivernal, c'est un film qui se passe en hiver, il fait très froid, il y a de la buée qui sort de la bouche quand des personnages, quand ils parlent. Donc c'est un film, on va dire, classique, hein. On a déjà parlé plusieurs fois dans les chroniques westernosophiques de cette démystification du western par lui-même. Mais je voudrais montrer que le traitement qu'en fait Don Siegel est très singulier et très particulier. Alors, le thème, donc, c'est un personnage de l'Ouest qui n'a plus sa place. Dans le monde moderne, d'ailleurs, l'action se situe en 1901, hein, donc on est là symboliquement dans un siècle nouveau. Et cet homme, c'est un ancien pistolero, un ancien tueur qui s'appelle John Bernard Brooks, qui est atteint d'un cancer. Et ce qui est assez intéressant déjà, c'est que le personnage donc, est atteint d'un cancer, et c'est une légende de l'Ouest, et puis l'acteur qui l'interprète, c'est une légende aussi, et il est également atteint d'un cancer, il sait que ça sera son dernier film, et il s'appelle John Wayne. Et le film est donc construit en fait un petit peu comme un jeu de miroir entre la légende de l'Ouest et puis la légende du cinéma, entre Brooks et Wayne. Et donc ce jeu de miroir, c'est ça qui va notamment nous intéresser d'un point de vue westernosophique.
The Western movie has become an American tradition. Films like Stagecoach, Red River, Shane, High Noon and The Magnificent Seven will never be forgotten. Now, Dino De Laurentiis presents perhaps the greatest Western of them all, The Shootist, the story of John Bernard Brooks, the last of the great gunfighters, a living legend.
Dès le début du film, Don Siegel a une idée assez géniale. Il va montrer en fait des extraits de films où a joué John Wayne, soi-disant pour raconter la vie de Brooks. Donc on reconnaît des films de War Dogs, etc. De tous mis en noir et blanc, donc on nous raconte la vie de Brooks dans le film, sauf que nous, on sait que c'est des films où en fait John Wayne jouait d'autres personnages. Donc déjà, la limite entre la réalité et la fiction, entre la vie et le cinéma, s'efface un petit peu. Et puis quand Brooks, donc âgé, hein, arrive dans la ville, eh bien il y a aussi une figure de la roue, une figure de la route qui tourne, qui va être reprise au moins deux fois dans le film, puisqu'on voit Brooks filmer de très bas derrière une roue de chariot qui tourne, comme si justement il devait laisser sa place avec le temps qui passe. Et puis on verra une autre roue qui tourne plus loin dans le saloon. Il y a aussi une figure intéressante dès le début du film, quand Brooks arrive en ville, c'est la figure du quadrillage de l'espace. Hein, on sait que le western classique, le western héroïque, il est basé sur le refus des barbelés, le refus des frontières, sur l'open range, l'espace ouvert. Or ici, l'espace est très très quadrillé, notamment par deux choses. Il y a des rails de tramway par terre. Alors bon, certes, le tramway est à cheval, On dit dans le film qu'il y aura bientôt un tramway électrique, mais pour l'instant il est à cheval. Mais il y a quand même des rails, donc on est déjà sur un chemin tracé. Et puis surtout, il y a beaucoup de lignes électriques dans cette ville en 1901. Et là, ces lignes électriques, on a un peu l'impression que c'est une toile d'araignée dans laquelle Books va se prendre. Donc en fait, il y a un jeu dans ce film qui est assez passionnant entre la vieillesse du personnage, donc Books, le héros, disons, entre guillemets, la vieillesse de l'acteur lui-même, hein, c'est le dernier film de John Wayne qui était malade et qui le savait, et puis la vieillesse du cinéma. Parce qu'en 1976, eh bien, on peut déjà avoir la nostalgie de l'ancien Hollywood, puisqu'on sait que, bon, à la fin des années 60, au début des années 70, il y a eu ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, on en reparlera dans d'autres chroniques. Et donc, bah, c'est un film sur la nostalgie, justement, à la fois d'une époque de l'histoire qui révolue, mais aussi d'une époque de l'histoire du cinéma qui révolue. Et ce jeu sur la vieillesse du cinéma, il va être pris. Alors, dès le début, par exemple, Books va voir le docteur, et le docteur est joué par qui ? Par James Stewart. Et James Stewart, bah, c'est l'avocat Ransom Stoddard dans L'homme qui tue à Liberty Valance, où il est aussi confronté à John Wayne. Et ils se disent d'ailleurs, en se revoyant, une petite phrase qui est assez amusante, ils disent « ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu ». Alors pour l'amateur de western, 15 ans, alors 1976 moins 15, c'est 1961. Et c'est l'année où a été tourné L'homme qui tue à Liberty Valance. Donc petite allusion assez fine, mais quand même assez directe, à justement cette vieillesse du cinéma, puisque L'homme qui tue à Liberty Valance était déjà un film un peu crépusculaire sur la fin d'un mythe, la fin d'une époque. Et là, on est 15 ans après, donc on est encore plus éloigné de cet âge d'or supposé.
Doc Hostetler.
John Bernard Books.
You remember it?
The newspapers occasionally remind me. What was it, 15 years ago?
The only time I was ever hit right here at the Acme Saloon.
You killed two men.
I'm damn lucky you were around, Doc.
Alors, il va y avoir beaucoup d'anecdotes, en fait, beaucoup d'allusions et plus ou moins anecdotiques dans le film à L'homme qui tue à Liberty Valance. C'est la scène de la promenade en calèche qui est reprise. C'est une réplique qui est quasiment reprise textuellement du film de Ford par Don Siegel. Quand John Wayne dit au personnage que joue Lorraine Bacall, la colère vous va bien, Mrs. Rogers, alors que dans L'homme qui tue à Liberty Valance aussi, il disait exactement la même chose à Ali, qui était elle aussi d'ailleurs dans l'encadrement d'une porte. Et puis il y a des allusions moins anecdotiques et plus intéressantes d'un point de vue westernosophique. Par exemple, dans les deux films, il y a un serviteur noir. Sauf que dans le film de Ford, dans L'homme qui tue à Liberty Valance, il est joué par Woody Strode, qui joue un serviteur noir très, très sobre, très distant, qui s'est resté à sa place. Alors qu'ici, l'acteur Scatman Crothers, qui joue Moses, cet acteur d'ailleurs, il est très connu parce que c'est le cuisinier dans Shining, hein, eh bien, il joue un rôle complètement décalé, complètement délirant, et il introduit donc de l'ironie dans ce film par ailleurs sérieux. Et cette multiplicité des tonalités, ça fait partie des intérêts, je crois, de ce film de Don Siegel, Le Dernier des Géants, qui va être d'ailleurs rendu par la diversité de l'univers musical, de la musique composée par Elmer Bernstein. Il y a des moments où Bernstein s'amuse à nous proposer une musique très mélancolique, très nostalgique. D'autres, au contraire, on est dans le burlesque, hein, on est presque dans l'humour. Et puis, par moments, on est quasiment dans le fantastique. Notamment, il y a un plan très intéressant à la fin du film où il y a une musique quasiment hitchcockienne et où James Stewart apparaît en arrière-plan, très flou. Et là, alors, bon, ça peut être vu aussi, pourquoi pas, puisque James Stewart est aussi un grand acteur d'Hitchcock, comme une allusion à un autre grand cinéaste. Donc film bourré de références, et puis film, je dirais, postmoderne par la distance qu'il prend par rapport à ses modèles. Le shérif, notamment, est un personnage assez intéressant. Si vous voyez le film, il est assez burlesque, lui aussi, il a un chapeau trop grand, et puis Il a un rôle très particulier puisque lui, il est ravi à l'idée que Books, qui est quand même une figure du passé, puis un tueur, meurt bientôt. Et donc, quand il lui apprend qu'il est malade, il crie youpi. Bon, voilà, complètement. Il y a des scènes comme ça complètement décalées. Il y a une autre scène aussi qui est intéressante, qui est reprise en quelque sorte de l'homme qui tue à Liberty Valance jusqu'au dernier des géants, c'est la figure de l'interview par un journaliste. Alors là, on retrouve un thème qu'on a vu dans plusieurs chroniques, hein, le rapport entre la réalité et le récit. Et Books, en fait, va être quasiment la victime dans ce film d'un complot littéraire, puisque le journaliste qui veut à tout prix écrire sa vie va en fait se mettre en affaire avec une de ses anciennes maîtresses pour écrire sa vie et puis pour la publier sous le nom de la maîtresse que Books aurait épousée, de Madame Books. Et Books dit à cette maîtresse, mais il sait rien de ma vie. Elle dit, bah si, c'est pas, il s'arrangera. Et il refuse. Books refuse que sa vie lui échappe, que son souvenir lui échappe. Et comme il va refuser, comme je vais l'expliquer, que sa mort lui échappe aussi. Alors il refuse que sa vie lui échappe en congédiant donc son ancienne maîtresse qui voulait tirer de l'argent sur sa vie. Il refuse en faisant têter le canon de son arme directement au journaliste, dans un plan assez amusant aussi, où le journaliste part dans un délire comme ça, il a les yeux mi-clos et puis il se retrouve avec le canon de l'arme dans la bouche. Il congédie aussi, alors ça c'est une scène aussi mémorable, le croque-mort, puisqu'il y a un croque-mort qui vient lui faire une sorte de devis, hein, puisque bon, voilà, on sait que c'est la fin. Le croque-mort, il est joué par John Carradine, grand acteur fordien aussi. Et en fait, Books le congédie parce qu'il a peur que son cadavre soit exposé contre de l'argent, comme apparemment ça s'était fait dans l'Ouest. Et il dit, j'en ai assez de ces spéculations sur ma mort m'appartient, elle n'appartient qu'à moi-même. Donc l'idée de Books, qui est une idée donc philosophique, c'est de maîtriser sa vie jusqu'à la mort. Et il y a une scène assez intéressante aussi chez le barbier où Books accepte finalement que ses cheveux deviennent des reliques. Hein. Le barbier lui demande, est-ce que je pourrais vendre vos cheveux, parce qu'il vient de lui couper les cheveux. Il dit, bah oui, allez, pourquoi pas. Et puis là aussi, il y a une petite scène d'humour de Don Siegel, puisque bon, Books s'en va, et puis le barbier regarde, et il mélange un peu les cheveux de Books à des cheveux d'autres clients, histoire qu'il ait quand même plus de choses à vendre avec la fabrication donc de fausses reliques. Et alors, le point d'orgue du film, ce qui fait en fait son intrigue majeure, c'est que Books va choisir de ne pas mourir du cancer. Il va choisir d'organiser sa propre mort, de la mettre en scène. Donc là, il y a vraiment une mise en abîme du cinéma, c'est-à-dire le personnage lui-même décide de devenir le metteur en scène de l'histoire, de sa propre histoire, parce qu'il veut une sortie digne de lui. Il veut mourir dans la dignité, c'est un concept qu'il évoque plusieurs fois. Il ne veut pas laisser faire les événements. Et mourir dans la dignité, pour un pistolero, bah, c'est pas mourir dans son lit, c'est pas non plus mourir avec une piqûre du docteur. C'est mourir comme un pistolero, donc il veut quitter le monde à l'ancienne, par les armes. Une sorte d'euthanasie par les Colts, disons. Hein.
This film has the makings of a classic.
I would not die a death like I just described. Not if I had your courage.
In it, John Wayne gives the most remarkable performance of his career.
I'm a dying man, scared of the dark.
As he recreates the final days.
There's more to being a man than handling a gun.
Of the man they called the shootist.
Donc Books va provoquer trois pistoleros qui rêvent tous, pour des raisons différentes que je ne vais pas détailler, de le tuer. Et donc il va ritualiser sa mort, il va mettre en scène sa propre mort, il va les convoquer pour les affronter dans un gunfight final. Alors il choisit même la date, hein, il choisit le jour de son anniversaire, histoire vraiment que la mise en scène soit totale. Alors les préparatifs sont assez intéressants, donc il va chez le barbier, comme j'ai dit tout à l'heure, il fait nettoyer son costume, et là d'un coup, on est à nouveau dans un phénomène d'intertextualité du film, mais là c'est plus avec un film antérieur, c'est plus avec L'homme qui tue Liberty Valance, c'est, d'après ce que j'ai vu quand j'ai revu le film, c'est sans doute avec Gran Torino, hein, un des derniers films de Clint Eastwood. Clint Eastwood était un grand admirateur de Don Siegel, bon, c'est lui qui a réalisé les premiers opus de la série de l'inspecteur Harry. Et quand on revoit The Shootist après avoir vu Gran Torino, eh bien, il y a des allusions multiples, plus ou moins anecdotiques aussi. Une scène où un personnage s'amuse à tirer comme ça en imitant une arme avec sa main qu'on va retrouver dans Gran Torino. Le refus de Books de rencontrer le pasteur parce que il y a des gens qui disent faut voir le pasteur avant de mourir, lui il veut pas, comme Kowalski dans Gran Torino va refuser aussi de se confesser. Il y a aussi le thème de la transmission, puisque dans Gran Torino, le personnage joué par Clint va donner sa voiture au jeune homme auquel il s'est attaché. Et puis, bien sûr, dans Le Dernier des gens, John Wayne va donner son cheval. Mais bon, on sait bien que la voiture peut être au cinéma contemporain ce que le cheval peut être au western. Alors là où le film devient aussi assez intéressant, c'est que Books, bien sûr, il va pas se faire tuer, il va pas s'offrir en victime expiatoire, il va se défendre, il va jouer. En fait, il y a cette idée un peu dans le film que la vie est un jeu et que la mort peut être un jeu aussi, donc il va s'amuser à affronter ces trois tueurs en même temps, hein, pour voir finalement s'ils sont capables de le tuer. Alors il y a vraiment une scène mémorable là qui se passe dans le saloon, puisqu'il les convoque au saloon, avec une scène assez complexe, avec pas mal de reflets dans les miroirs, dans les verres, etc. Et puis par chance ou par malchance, je sais pas, c'est là où ça devient intéressant, Book il est tue tous les trois en fait, hein. Il est toujours pas mort, il a toujours son cancer, il a pas réussi à se faire tuer. Et on le voit, il y a un plan comme ça, on le voit debout entre les trois cadavres, et là on se dit, alors c'est quoi, il a gagné ou il a perdu? C'est un succès ou c'est un échec? Il a raté sa mort ou il a réussi quelque chose? Puisque bon, en général, dans les westerns, quand on tue l'adversaire, on a gagné. Mais là, il voulait être tué. Alors, je vous laisse découvrir l'ultime dénouement du film, parce que je ne voudrais pas quand même tout raconter. Et puis aussi, là, je vous laisse découvrir la dernière expression sur le visage de John Wayne, qui là aussi me semble être une allusion à Gran Torino. Donc le récit est achevé, mais la question philosophique sur laquelle j'avais ouvert la chronique, elle reste ouverte. Hein. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce qu'une mort réussie? Ben, ce sont d'immenses questions auxquelles aucun film, bien sûr, ne peut répondre. Les prochaines chroniques donc, seront consacrées à Sergio Leone, l'autre réalisateur avec Don Siegel auquel Clint Eastwood avait dédié son film Impitoyable. Mais avant de vous quitter, juste une dernière remarque. Je vais me permettre une petite parenthèse personnelle. Je voudrais dédier cette chronique qui est consacrée donc, au thème du suicide à la mémoire de mon très cher ami Ahmed Fally, qui le 2 novembre 2010, la veille de son anniversaire, un peu comme Books dans le film, a lui aussi décidé qu'il en avait assez vu et assez vécu sur notre terre.
Le monde se divise en deux catégories, ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les 2e et 4e dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.grenouille888.org.